Savoir,
c'est pouvoir. La plupart des gens ont du mal à digérer la science moderne parce que son langage mathématique est difficile à saisir et que ses découvertes contredisent souvent notre sens commun. Sur les 7 milliards d'habitants que compte le monde, combien comprennent réellement la mécanique quantique, la biologie cellulaire ou la macroéconomie? La science n'en jouit pas moins d'un prestige immense en raison des pouvoirs inédits qu'elle nous donne. Présidents et généraux ne comprennent pas forcément la physique nucléaire, mais saisissent bien ce qu'ils peuvent faire avec des bombes nucléaires. En 1620, Francis Bacon publia un manifeste scientifique intitulé « Novum Organum, nouvel outil », où il soutenait que « savoir, c'est pouvoir ». Le véritable test de la connaissance n'est pas de savoir si elle est vraie, mais quel pouvoir elle nous donne. Les hommes de science supposent habituellement qu'aucune théorie n'est à 100% correcte. Par conséquent, la vérité est un médiocre test du savoir. Le véritable test, c'est l'utilité. Une théorie qui nous permet de faire de nouvelles choses constitue le savoir. Au fil des siècles, la science nous a offert quantité de nouveaux outils. Les uns sont mentaux, comme les outils employés pour prédire les taux de mortalité et de croissance économique. Plus importants encore sont les outils technologiques. Le lien forgé entre la science et la technologie est si fort que l'on a aujourd'hui tendance à confondre les deux. Nous avons tendance à penser qu'il est impossible d'élaborer de nouvelles technologies sans recherche scientifique. Et à quoi bon chercher si cela ne débouche pas sur de nouvelles technologies? En vérité, la relation entre science et technologie est un phénomène très récent. Avant 1500, science et technique étaient des domaines totalement séparés. Quand Bacon relia les deux au début du XVIIe siècle, c'était une idée révolutionnaire. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce lien se resserra, mais le nœud ne se noua vraiment qu'au XIXe siècle. Encore en 1800, la plupart des souverains qui voulaient une armée forte et la plupart des manias de l'industrie qui voulaient réussir en affaires ne se souciaient pas de financer la recherche en physique, en biologie et en économie. Non qu'il n'y ait jamais eu d'exception à la règle. Un bon historien trouve des précédents à tout. Mais un meilleur historien sait quand ces précédents ne sont que des curiosités qui brouillent l'essentiel. D'une manière générale, la plupart des souverains et hommes d'affaires prémodernes ne finançaient pas la recherche sur la nature de l'univers pour élaborer de nouvelles techniques. Et la plupart des penseurs n'essayaient pas de traduire leurs découvertes en gadgets techniques. Les souverains finançaient les institutions éducatives dont le mandat était de propager le savoir traditionnel afin d'étayer l'ordre en place. Ici et là, apparurent de nouvelles techniques, mais elles étaient généralement l'œuvre d'artisans sans instruction, qui procédaient par tâtonnement, non pas de savants engagés dans une recherche scientifique systématique. À longueur d'année, les charrons fabriquaient les mêmes charrettes avec les mêmes matériaux. Ils ne mettaient pas de côté une fraction de leurs profits annuels pour la consacrer à la recherche-développement sur de nouvelles charrettes. Les améliorations occasionnelles tenaient habituellement à l'ingéniosité d'un menuisier local qui n'avait jamais mis les pieds à l'université et ne savait même pas lire. C'était vrai du secteur public aussi bien que du secteur privé. Tandis que les États modernes appellent les hommes de science à fournir des solutions dans presque tous les domaines de la politique nationale, de l'énergie à la santé en passant par l'élimination des déchets, les anciens royaumes le faisaient rarement. Nulle part le contraste entre alors et aujourd'hui n'est plus prononcé que dans le domaine des armes. Quand, en 1961, le président sortant Dwight Eisenhower mit en garde contre la montée en puissance du complexe militaro-industriel, il laissa de côté une partie de l'équation. Il aurait dû alerter son pays sur le complexe scientifico-militaro-industriel, parce que de nos jours, les guerres sont des productions scientifiques. Les forces armées du monde engagent, financent et orientent une bonne partie de la recherche scientifique et du développement technique de l'humanité. Alors que la Grande Guerre s'enlisait dans une interminable guerre de tranchées, les deux camps appelèrent les hommes de science à trouver le moyen de sortir de l'impasse et de sauver la nation. Les hommes en blanc répondirent à l'appel, et de leur laboratoire sortit un flot continu de nouvelles armes miracles. avions de combat, gaz toxiques, chars, sous-marins et mitrailleuses toujours plus efficaces, pièces d'artillerie, fusils et bombes. La science joua un rôle encore plus grand dans la Seconde Guerre mondiale. Fin 1944, l'Allemagne perdait la guerre. La défaite était imminente. Un an plus tôt, les Italiens, alliés des Allemands, avaient renversé Mussolini et capitulé devant les Alliés. Mais l'Allemagne continua le combat, alors même que les armées britanniques, américaines et soviétiques se rapprochaient. Si les soldats et civils allemands pensaient que tout n'était pas perdu, c'est qu'ils croyaient que les savants allemands étaient sur le point de renverser le courant avec des armes miracles comme le V2 et les avions à réaction. Alors que les Allemands travaillaient à leurs fusées et avions, le projet Manhattan aux États-Unis aboutit à la mise au point de bombes atomiques. Quand la bombe fut prête, début août 1945, l'Allemagne avait déjà capitulé, mais le Japon persistait à se battre. Les forces américaines étaient sur le point d'envahir ces îles. Les Japonais juraient de résister à l'invasion et de combattre jusqu'à la mort, et on avait toutes les raisons de penser que ce n'était pas une menace en l'air. Les généraux américains expliquèrent au président Harry S. Truman qu'un débarquement coûterait la vie à 1 million de soldats américains et ferait durer la guerre jusqu'en 1946. Truman décida d'employer la nouvelle bombe. 2 semaines et 2 bombes atomiques plus tard, le Japon acceptait une reddition sans condition. La guerre était terminée. Mais la science n'est pas simplement une affaire d'armes offensives. Elle joue aussi un grand rôle dans la défense. Beaucoup d'Américains croient aujourd'hui que la solution au terrorisme est d'ordre technique plutôt que politique. Il suffit de donner quelques millions de plus à l'industrie des nanotechnologies, pensent-ils, et les États-Unis pourraient envoyer des mouches espions bioniques dans les grottes afghanes, les redoutes yéménites et les camps nord-africains. Dès lors, les héritiers d'Oussama Ben Laden ne pourront pas se faire un café sans qu'une mouche espion ne transmette cette information capitale au quartier général de l'Anglais. Allouer des millions à la recherche sur le cerveau, et chaque aéroport pourrait être équipé de scanners d'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, FMRI, ultra sophistiqués, qui permettraient de repérer aussitôt les pensées de haine ou de colère dans le cerveau des passagers. Cela marchera-t-il vraiment? Qui sait? Est-il sage de mettre au point des mouches bioniques et des scanners qui lisent dans les pensées? Pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, à l'instant où vous lisez ces lignes, le ministère américain de la Défense consacre des millions de dollars au laboratoire de recherche sur les nanotechnologies et le cerveau, à charge pour eux d'explorer ces idées ou d'autres. Cette obsession de la technologie militaire, des chars aux mouches espions en passant par les bombes atomiques, est un phénomène étonnamment récent. Jusqu'au XIXe siècle, l'immense majorité des révolutions militaires a été le produit de changements organisationnels plutôt que techniques. Lorsque des civilisations étrangères se rencontraient pour la première fois, les écarts techniques jouaient parfois un rôle important. Dans certains cas, quelques-uns pensèrent même à créer ou creuser délibérément ces écarts. La plupart des empires ne doivent pas leur essor à la sorcellerie technologique, et leurs souverains ne se préoccupaient guère de progrès techniques. Les Arabes n'ont pas triomphé de l'empire sassanide par la supériorité de leurs arcs ou de leurs épées. Les Seldjoukides n'avaient aucun avantage technique sur les Byzantins, et les Mongols n'ont pas conquis la Chine avec le concours d'une nouvelle arme ingénieuse. En fait, dans tous ces cas, les vaincus jouissaient même d'une technologie civile et militaire supérieure. L'armée romaine en est un exemple particulièrement bon. Elle était la meilleure armée de son temps, mais, d'un point de vue technique, elle n'était pas supérieure à Carthage, à la Macédoine ou à l'Empire Séleucide. Son avantage reposait sur une organisation efficace, une discipline de fer et d'immenses réserves d'hommes. L'armée romaine ne se dota jamais d'un service de recherche-développement et conserva plus ou moins les mêmes armes des siècles durant. Si les légions de Scipion Émilien, le général qui rasa Carthage et vainquit les Numanciens au IIe siècle avant l'ère commune, avaient soudain surgi 5 siècles plus tard à l'époque de Constantin, elles auraient eu de bonnes chances de le battre. Imaginez maintenant ce qu'il adviendrait d'un général d'il y a quelques siècles, mettons Napoléon, s'il conduisait ses troupes contre une brigade blindée moderne. Napoléon était un brillant tacticien et ses hommes étaient des professionnels hors pair. Mais leur talent leur serait inutile face à l'arsenal moderne. En Chine ancienne, comme à Rome, la plupart des généraux et des philosophes ne pensaient pas qu'il était de leur devoir de mettre au point des armes nouvelles. L'invention militaire la plus importante de toute l'histoire de la Chine est la poudre à canon. Pour autant qu'on le sache, cependant, il s'agit d'une invention accidentelle que l'on doit à des alchimistes taoïstes en quête de l'élixir de vie. La carrière ultérieure de la poudre à canon est encore plus parlante. On aurait pu penser que les alchimistes taoïstes allaient faire de la Chine le maître du monde. En fait, les Chinois se serviraient essentiellement du nouveau mélange pour en faire des pétards. Alors même que l'Empire Song s'effondrait face à l'invasion mongole, aucun empereur ne lança un projet Manhattan médiéval pour sauver l'Empire en inventant une arme fatale. C'est seulement au XVe siècle, autour de 600 ans après l'invention de la poudre à canon, que les canons devinrent un facteur décisif sur les champs de bataille afro-asiatiques. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que le potentiel mortel de cette substance soit exploité à des fins militaires? Parce qu'elle est apparue à une époque où ni les rois, ni les savants, ni les marchands ne pensaient qu'une nouvelle technique militaire pût les sauver ou les enrichir. La situation commença à changer au XVe et XVIe siècle, mais il fallut attendre encore 200 ans avant que la plupart des souverains montrent quelque intérêt pour financer la recherche-développement d'armes nouvelles. La logistique et la stratégie continuèrent à avoir bien plus d'impact que la technique sur l'issue des guerres. La machine militaire napoléonienne, qui écrasa les armées des puissances européennes à Austerlitz, 1805, était plus ou moins équipée des mêmes armes que l'armée de Louis XVI. Tout brillant artilleur qu'il était, Napoléon s'intéressa peu aux armes nouvelles, alors même que savants et inventeurs tentèrent de le persuader de financer la mise au point de machines volantes, de sous-marins et de fusées. La science, l'industrie et la technologie militaire ne s'entremêlèrent qu'avec l'avènement du système capitaliste et la révolution industrielle. Sitôt cette relation établie, cependant, elle transforma rapidement le monde. L'idéal du progrès. Jusqu'à la révolution scientifique, la plupart des cultures humaines ne croyaient pas au progrès. Pour elles, l'âge d'or appartenait au passé. Le monde stagnait, voire se dégradait. Le strict respect de la sagesse séculaire pourrait peut-être ramener au bon vieux temps, et l'ingéniosité des hommes pouvait bien améliorer telle ou telle facette de la vie quotidienne. Mais il semblait impossible que le savoir-faire humain pût triompher des problèmes fondamentaux du monde. Si même Mahomet, Jésus, Bouddha et Confucius, qui savaient tout ce qu'il y avait à savoir, n'avaient pu abolir la famine, la maladie, la misère et la guerre, comment pouvait-on espérer y parvenir? Beaucoup de religions imaginaient qu'un jour viendrait un Messie, qui mettrait fin à la guerre, aux famines et même à la mort. Mais l'idée que l'humanité pourrait le faire en acquérant de nouvelles connaissances et en inventant de nouveaux outils était pire que ridicule. Elle relevait de l'hubris. L'histoire de la tour de Babel, celle d'Icare ou du golem, et d'innombrables autres mythes apprenaient aux gens que tout effort pour dépasser les limites de l'homme conduirait immanquablement à la déception et à la catastrophe. Quand la culture moderne reconnut qu'il était beaucoup de choses importantes qu'elle ne savait pas encore, et quand cet aveu d'ignorance fut associé à l'idée que les découvertes scientifiques pouvaient nous donner de nouveaux pouvoirs, les gens se mirent à soupçonner que, somme toute, un véritable progrès était peut-être bien possible. La science commençant à résoudre les problèmes insolubles l'un après l'autre, beaucoup acquirent la conviction qu'aucun problème ne résisterait à l'humanité du fait de l'acquisition de nouvelles connaissances et de leur application. La misère, la maladie, la guerre, la famine, la vieillesse et la mort elles-mêmes n'étaient pas le destin inévitable de l'humanité, elles étaient simplement le fruit de notre ignorance. La foudre en est un exemple célèbre. Dans beaucoup de cultures, on croyait que la foudre était le marteau dont se servait un dieu en colère pour châtier les pécheurs. Au cœur du XVIIIe siècle, dans l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire des sciences, Benjamin Franklin profita d'un orage pour faire voler un cerf-volant et tester son hypothèse que la foudre n'est qu'un courant électrique. Ses observations empiriques, associées à sa connaissance des qualités de l'énergie électrique, lui permirent d'inventer le paratonnerre et de désarmer les dieux. La misère est un autre cas d'école. Pour de nombreuses cultures, elle est un aspect inévitable de ce monde imparfait. Selon le Nouveau Testament, peu avant la crucifixion, une femme oignit Jésus d'une huile précieuse qui valait 300 deniers. Ses disciples tancèrent la femme, lui reprochant de dilapider une somme pareille au lieu de la donner aux pauvres. Mais Jésus la défendit. « Des pauvres, en effet, vous en avez tous les jours avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Marc chapitre 14, verset 7. Aujourd'hui, de moins en moins de gens, y compris parmi les chrétiens, donnent raison à Jésus sur ce point. La pauvreté est de plus en plus perçue comme un problème technique sur lequel il est possible d'intervenir. Il est devenu banal de croire qu'une politique fondée sur les toutes dernières découvertes en astronomie, en économie, en médecine et en sociologie peut venir à bout de la pauvreté. De fait, de nombreuses parties du monde sont déjà libérées des pires fléaux de la privation. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont souffert de deux formes de pauvreté. La pauvreté sociale, qui frustre certains des possibilités ouvertes aux autres, et la pauvreté biologique, qui met en danger la vie même des individus, faute de nourriture et de toit. Peut-être ne pourra-t-on jamais éradiquer la pauvreté sociale, mais dans bien des pays à travers le monde, la pauvreté biologique appartient au passé. Récemment encore, la plupart des gens restaient tout près de la ligne de pauvreté biologique sous laquelle une personne manque des calories nécessaires pour vivre longtemps. De petites erreurs de calcul ou infortunes suffisaient à faire basculer les gens de l'autre côté, dans la gueule ouverte de la faim. Catastrophes naturelles ou calamités d'origine humaine précipitaient souvent des populations entières dans l'abîme et faisaient des millions de morts. De nos jours, la plupart des habitants ont un filet de sécurité tendu au-dessous d'eux. Les individus sont protégés des infortunes par leurs assurances, la sécurité sociale et pléthore d'ONG locales et internationales. Quand la calamité frappe une région entière, les secours internationaux réussissent habituellement à empêcher le pire. Les gens souffrent encore de nombreuses dégradations, humiliations et maladies liées à la misère. Mais dans la plupart des pays, on ne meurt plus de faim. De nos jours, dans beaucoup de sociétés, on risque davantage de mourir d'obésité que de faim.